Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon, Bertille Bourdon, Nicolas Sendé, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Dernier temps de notre série consacrée aux nouvelles batailles de l'eau, après nous être intéressés au marché de l'eau en Europe, au découpage des frontières maritimes en Méditerranée, hier au barrage de la discorde, tournons-nous aujourd'hui vers les nouveaux défis de l'agriculture. Le risque de pénurie, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Comme vous le voyez ici, il y a beaucoup de palmiers morts qui ne produisent plus rien depuis longtemps. La terre ne produit plus rien non plus. La sécheresse et le manque d'eau ont fait diminuer les revenus des habitants et de leurs familles.
Je ne suis pas sûr de savoir comment surmonter cette inondation. Je vis des moments difficiles car je n'ai plus de travail à cause de cette inondation. Si mon mari est encore en vie, nous pourrons peut-être gagner un peu d'argent. Avec mes enfants, on souffre beaucoup en ce moment. On n'a plus rien à manger. Même les personnes qui ne sont pas dans le besoin subissent cette situation.
C'est mieux de tisser des paillasses, c'est un revenu plus stable. Avec le riz, on attendait toute une saison et quand la récolte était mauvaise, on perdait tout.
C'est bien, tu gagnes de l'argent avec le roseau et tu peux travailler pendant la saison des pluies.
Oui, mais il pleut plus qu'avant et avec le roseau, on doit attendre que l'eau baisse dans les champs pour récolter.
Culture anéantie par la sécheresse d'un côté, récolte balayée par les inondations de l'autre. Du Maroc au Bangladesh en passant par le Vietnam, les phénomènes météorologiques rendus de plus en plus intenses par le changement climatique bouleversent l'agriculture et mettent en cause la sécurité mondiale. En effet, notre consommation alimentaire est étroitement dépendante des réserves d'eau dont nous disposons et de la manière dont nous les gérons. La désertification de régions entières du globe d'une part, le risque de submersion définitive de zones cultivables de l'autre, bien nous oblige à penser une gestion beaucoup plus rigoureuse de cette ressource stratégique. Victime annoncée de ces bouleversements climatiques, l'agriculture en est aussi, en partie en tout cas, responsable entre irrigation incontrôlée et pollution des sols. Alors, aura-t-on suffisamment d'eau pour nourrir l'humanité dans les années à venir? Stress hydrique, inondations accrues, peuvent-ils se compenser mutuellement? Ou sommes-nous condamnés à en subir les effets destructeurs sur les récoltes? Comment l'agriculture peut-elle s'adapter au nouveau paradigme climatique? Voilà certaines des questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité Bruno Parmentier. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ingénieur, économiste, consultant spécialisé dans les questions agricoles et alimentaires. Vous avez signé beaucoup d'ouvrages sur cette question. J'ai eu l'occasion régulièrement d'échanger avec vous. Agriculture, alimentation et réchauffement climatique qui était paru aux éditions Diffusion Libre, mais aussi Fin Zéro qui était paru à La Découverte. C'était un peu plus ancien. Avec nous également Emma Aziza. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous, Emma Aziza. Merci. Vous êtes hydrologue, docteur de l'École des Mines et fondatrice de Mayan, qui est un centre de recherche appliqué sur l'adaptation face au changement climatique. Ici en France, Emma Aziza, on a eu un été 2020 qui a été marqué par une sécheresse absolument record. Ce fut déjà le cas en 2019, encore le cas en 2018, encore le cas en 2017. Ça veut dire qu'on est durablement rentré dans un nouveau temps de sécheresse structurelle?
Je pense qu'à partir du moment où on n'est plus sur un artefact statistique qui se connaît depuis la nuit des temps, on a toujours eu des sécheresses extraordinaires, des inondations monstrueuses, mais qu'à partir du moment où chaque année on vit une sécheresse marquée, à chaque fois d'ailleurs avec un nouveau scénario, des nouveaux paramètres qui rentrent en jeu, mais toujours le même résultat. Là, on peut parler de tendance et il faut sortir effectivement de cette question de statistique. Le problème, c'est que quand on fait de l'hydrologie, on s'appuie en général sur des chroniques, des séries de chroniques de pluie, des séries de chronologiques de débit, si vous voulez. Et en réalité, aujourd'hui, on doit sortir de ce schéma-là. Et ça nous demande, nous scientifiques, de revoir complètement la donne, d'avoir un cerveau plus agile pour chercher à comprendre ce qui est en train de se passer sous nos yeux.
Mais qu'on comprenne bien, est-ce qu'on a des volumes d'eau potable qui diminuent ou au fond c'est simplement des disparités qui sont plus prononcées, c'est-à-dire plus prononcées dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire avec des moments où il y a beaucoup de pluie, d'autres de la sécheresse, enfin vous comprenez ce que je veux dire?
Alors quand vous êtes sur le pourtour méditerranéen, on est habitué à avoir du trop ou du trop peu. C'est-à-dire qu'on est habitué à ces crues éclairs monstrueuses qu'on a encore connues dernièrement, ou bien ces sécheresses importantes durant l'été. Le problème, c'est que d'autres régions, plus au nord, comme la Picardie, ne sont pas, elles, habituées à ces phénomènes. Et ce que l'on remarque, c'est qu'en fin de compte, la France, c'est vraiment cette ceinture qui est située entre ces pays qui sont plus au sud, semi-arides à arides, et puis ces pays au nord qui sont humides. Et donc, cette ceinture, en réalité, est en train de bouger, est en train de remonter vers le nord, et nous, on est les observateurs, en France, de cette évolution directe.
Si on sort de nos frontières françaises, Bruno Parmentier, est-ce qu'on peut faire une carte des zones qui demain seront les plus touchées par le stress hydrique? Quelle est la géographie de cette pénurie d'eau?
Bah écoutez, par exemple en Afrique, bah le Sahara avance sur le Sahel. La différence entre le Sahara et le Sahel, c'est que dans le Sahara il pleut jamais, dans le Sahel il pleut un peu. Alors du point de vue agronomique, on dit il faudrait au moins 300 mm d'eau pour espérer récolter une plante. 300 mm d'eau, c'est un tiers de ce qu'on a en France, c'est pas énorme. Hein. Cette limite des 300 mm d'eau, elle a avancé de 200 km depuis 30 ans. Donc on a dû évacuer une zone qui faisait 5000 km de long, le Sahara c'est très long, sur 200 km. Mais il y avait des gens, ces gens-là ils étaient plus au sud. Ils ont coupé les arbres pour se faire la cuisine. Et leurs chèvres ont mangé les dernières végétations. Donc, le désert a avancé non pas de 200, mais de 400. 200 à cause des pluies, plus 200 à cause de la déforestation. On a dû évacuer, en fait, l'équivalent de 4 fois la superficie de la France. Et donc, faut se rendre compte, ces gens-là avec leurs troupeaux, ils vont plus au sud. Mais il y avait des gens plus au sud. Il y avait des agriculteurs. Ils voient les éleveurs arriver très mal. Et c'est pas du tout étonnant, il y a rien à boire, il y a rien à manger, eh ben on a Boko Haram, on a une insécurité et on a la guerre. Mais c'est pareil, par exemple, l'Australie devient un immense désert. L'Australie, grosso modo, maintenant qu'on a le mode d'emploi, 6 années sécheresse, 1 année inondation. Voilà. Mais le désert de Gobi ne cesse d'augmenter. La Mongolie devient le désert de Gobi, elle est aux portes de Pékin. Et donc les endroits très arides, ils avancent. Et puis de l'autre côté, il y a la mer qui monte, les ouragans qui arrivent, et une bonne partie des grandes zones agricoles du monde, qui sont les deltas des grands fleuves, parce que là, c'est très plat, c'est très humide, c'est de la bonne terre, il va falloir les évacuer. Quasiment tous les deltas du monde.
Sachant que ce sont des zones qui sont particulièrement peuplées. Emma Aziza, si on sort de la question purement du réchauffement climatique et qu'on revient à la question de la pénurie d'eau et à la question de l'agriculture, évidemment, il ne s'agit pas de dire que l'agriculture est la seule responsable des dérèglements climatiques actuels. Il n'empêche qu'elle a une part de responsabilité. Jusqu'où, justement, elle a une part de responsabilité? Et puis ensuite, on va regarder où est-ce qu'on peut peut-être faire des gains, économiser un petit peu de l'eau dans le modèle qui est aujourd'hui le plus répandu, un modèle intensif, sachant que je sais bien qu'il y a d'autres choses qui existent, mais on va regarder dans celui-ci s'il y a des choses déjà à faire. Emma Aziza.
Alors déjà, effectivement, l'agriculture, c'est quand même le problème majeur, puisque aujourd'hui, on est à 93% à peu près de l'utilisation de l'eau disponible dans le monde qui va à des fins d'agriculture. Donc effectivement, se pose le problème des assoiffés, parce qu'effectivement, on a de plus en plus soif dans certains lieux du monde, par cette aridité qui se met en place et qui avance, mais on a aussi de plus en plus faim, et je pense que vous en parlerez encore un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a ce problème, on ne peut pas dissocier le problème de l'eau avec le problème de l'alimentation. Et donc c'est vraiment ce problème et ce grand défi qui se pose aujourd'hui devant nous, c'est-à-dire qu'on est face à une démographie galopante qu'on n'arrive pas à arrêter aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va réussir à nourrir 9 à 10 milliards d'êtres humains sur Terre? Et puis surtout, on a des changements d'habitudes alimentaires, donc effectivement il y a déjà ce problème de la consommation de l'eau en fait en soi, et je pense que c'est intéressant parce que vous savez quand on parle souvent de la consommation d'eau potable, on vous dit toujours attention, arrêtez de prendre une douche. Arrêtez de prendre un bain et prenez une douche, ce serait comme la solution magique. La réalité, elle est quand même plus complexe que ça, parce qu'effectivement, plus de 95% de l'eau qu'on consomme, c'est de l'eau virtuelle, que l'on ne voit pas. Les habits avec lesquels je suis aujourd'hui, vêtue, sont basés sur l'eau. Mon alimentation et mon bol alimentaire me demandent à peu près par jour entre 3000 et 5000 litres d'eau. Effectivement, une population qui va vers une tendance carnée, par exemple, notamment avec cet accroissement de la consommation
d'eau, évidemment,
pose la question à un moment donné de cette utilisation de l'eau, mais pas spécialement ici, de cette utilisation de l'eau aussi ailleurs et de cette mondialisation de cette consommation.
On va revenir sur cette question de l'eau virtuelle et sur la question aussi du régime alimentaire qui sont évidemment très importants. Mais si on reste un instant, Bruno Parmentier, j'ai vu que vous voulez réagir, je vais vous laisser réagir, mais sur le point qui m'intéressait au départ, c'est-à-dire le modèle agricole tel qu'il existe aujourd'hui. Pour faire des économies d'eau, il faut irriguer de façon plus pertinente nos champs. Il y a plein de manières d'irriguer. Vous pouvez totalement submerger, inonder les champs, comme on le fait avec les rizières. On peut creuser des sillons, on peut même faire du goutte à goutte. Là, on peut faire des gains intéressants. Alors, jusqu'où est-ce que, justement, on peut gagner en économie d'eau en rationalisant la chose?
Alors, je voulais déjà que les auditeurs comprennent qu'il y a beaucoup d'eau sur Terre. Ça va. Sauf que 96% de l'eau sur Terre est salée. Elle sert à rien. Il reste que 4%. Les trois quarts des 4% sont inatteignables. C'est les glaces polaires ou bien de l'eau trop profonde. Donc ce dont on est en train de parler, c'est 1% de l'eau. Et en plus, elle est extrêmement mal répartie. Il y a, une douzaine de pays qui croulent sous l'eau, le Canada, le Brésil, etc. Et puis il y a 80 pays qui ont soif. Alors maintenant, ce 1% de l'eau, ça sert d'abord à manger. Alors, il y en a qui pensent que c'est pour se laver les dents et pour tirer la toilette, mais pas du tout. En fait, il y a une malfaçon incroyable dans la création, c'est que les plantes ont été livrées sans moteur. Pour pouvoir grandir, les plantes, elles transpirent. C'est le coup du buvard, ça, vous savez. Si la plante ne transpire pas, la sève ne risque pas de monter. Et autrement dit, il y a un chiffre qu'il faut comprendre. Pour faire un kilo de céréales, il faut une tonne d'eau. À peu près pareil, d'ailleurs, toutes les céréales. Une tonne d'eau pour faire un kilo de blé, une tonne d'eau pour un kilo de maïs. La seule différence, c'est que le blé est habile. Chez nous, pas vu, pas pris, il boit en mars, avril, mai. Et le maïs boit quand les Parisiens sont en vacances en juillet, août. Donc ça fait des fâcheries, mais c'est à peu près pareil. Alors maintenant, effectivement, dans les pays où on manque d'eau, on a tendance à arroser. Alors évidemment, comme c'est l'essentiel de la consommation d'eau, les économies là-dedans, elles sont considérables. Donc moi, quand j'étais jeune, dans le sud-ouest, on inondait les champs, comme une rizière. On va inonder les champs de maïs ou de blé, c'est absurde. Bon, alors ensuite, on a inventé le tourniquet. Et puis, ils n'ont pas les 35 heures, mais enfin, ils faisaient plutôt le tourniquet de jour. Bah, le tourniquet de jour, c'est pas de bol, il y a à peu près 40% quand il fait très chaud, 40% de l'eau qui n'atteint même pas le sol. Alors maintenant, on fait le tourniquet de nuit. Et puis on arrive au goutte à goutte, puis on remet des couvertures de sol, puis on remet des haies. Et puis finalement, tiens par exemple, dans le sud-ouest de la France, on est spécialiste du maïs. Le maïs irrigué, mais le maïs irrigué, il est irrigué l'été à base de la fonte des glaciers des Pyrénées. Ah ben c'est dommage, il n'y a plus de glaciers. Donc en fait, l'eau dans la Garonne au mois d'août, c'est comme l'eau dans le Gard, à Nîmes, il n'y en aura pas.
Mais si tout le monde fait du goutte à goutte, est-ce qu'on s'en sort?
Oui, attendez. Je vais encore plus loin. Sur chaque champ du sud-ouest, il pleut dans l'année nettement suffisamment d'eau pour faire du maïs. Notre problème, c'est que dès que l'eau tombe, on a de cesse de la renvoyer dans la rivière et dans la mer, et ensuite on n'en a plus. Si on arrive à stocker l'eau dans le sol, je dis pas des lacs, dans le sol. C'est-à-dire, pour ça, il faut couvrir le sol en permanence, faut mettre des haies, faut cultiver les vers de terre, et les vers de terre, ils ont notamment, quand ils sont bien nourris, un truc très bien, ils font des trous verticaux. Et ben, quand l'eau tombe et que le sol est couvert, l'eau se stocke dans le sol. Et le trou du vers de terre, il sert une deuxième fois à allonger la racine de la plante annuelle, parce que les plantes annuelles, ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire des racines. Si le sol est dur, c'est 50 cm. Si le sol est mou, c'est 1,50 m. Et donc, si on cultive des vers de terre et qu'on couvre le sol en permanence dans le sud-ouest, on peut très bien faire du maïs sans irrigation en stockant l'eau de pluie dans son champ.
Donc, il y a des marges de manœuvre. Emma Aziza, pour poursuivre un petit peu dans ce sens-là, ce qui provoque évidemment des situations de stress hydrique, c'est aussi que nos nappes phréatiques s'épuisent et que l'eau stockée ne suffit plus à répondre aux besoins. Donc on pourrait imaginer que on réalimente tout simplement ces nappes phréatiques grâce aux pluies, sauf que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsqu'il pleut, l'eau ne pénètre plus presque plus dans nos nappes phréatiques.
Exactement.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on met des verres partout, comme le propose Bruno Parmentier? Ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres solutions qui nous permettraient de réalimenter ces nappes phréatiques pour recréer du stock?
Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sol, en fin de compte, ne fait pas que nourrir la population. Il sert aussi, il filtre, il épure l'eau, qui permet justement cette eau qui va venir de cette pluviométrie, qui va pouvoir s'infiltrer dans les sols. Et donc, c'est ce qui va faire aussi la qualité de nos nappes d'eau. Donc, il y a une interaction immédiate et directe entre ces couches de sol qui sont finalement ce filtre, ce premier filtre terrestre, avec derrière nos milieux souterrains qui sont censés nous servir en adduction en eau potable. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un rôle majeur dans la qualité du sol. Et je pense que le nœud du problème, il est peut-être plus dans le sol et dans la qualité du sol que d'ailleurs dans les problématiques d'eau. C'est que en réalité, il a un rôle majeur tout simplement parce que la qualité du sol et son format va faire en sorte que l'on ait un certain pourcentage d'eau qui puisse s'infiltrer ou d'eau qui ruisselle. Et on le voit bien, ce sol est en concurrence avec un développement démographique, avec une urbanisation, mais pas que. Il y a énormément d'utilisateurs de ce sol. D'ailleurs, le vrai problème dans le monde, c'est finalement que certaines régions voudraient pouvoir accroître leur capacité alimentaire. Et en réalité, il y a un manque de disponibilité de ces terres cultivables. Donc effectivement, il faut travailler peut-être autrement. Moi, j'aime beaucoup l'idée des vers de terre. Je pense qu'il faut retravailler avec l'idée de favoriser ce paysan et derrière de retrouver un sens, de retrouver une cohérence et plus de résilience dans ces sols, parce que ce sont des sols qui sont vides en réalité. Et juste pour finir, ces sols derrière, ils permettent de créer cette alimentation, mais cette alimentation qui nous nourrit, qui est composée de tas de vitamines, de minéraux, etc., ils viennent d'où ? Ils viennent du sol. Donc si ces sols sont complètement morts parce que des tonnes de pesticides qu'on a d'ailleurs aujourd'hui en France, qu'on retrouve dans nos rivières, voire même certains taux qui sont totalement interdits en Europe et qu'on retrouve partout, on a ce vrai problème de la qualité qui est complètement dépendant de la quantité.
Vous aimez beaucoup les vers de terre proposés par Bruno Parmentier, moi aussi et tout le monde, mais vous le dites aussi, on est dans un monde où on a une urbanisation qui est galopante. Alors qu'est-ce qu'on fait? On enlève les goudrons de nos villes et on remet de la terre partout dans les rues? Enfin, concrètement, est-ce que dans les villes, il y a une solution qui permettrait d'éviter ce ruissellement?
Il y a des solutions qui permettent de revégétaliser les sols et effectivement de permettre, de toutes les façons, c'est nécessaire aujourd'hui avec l'évolution qu'on a actuellement des risques d'inondation et des risques de canicule que l'on voit s'installer très clairement en France. Il va falloir revoir notre rapport au développement des villes, l'albédo, que ce soit des routes, que ce soit des sols, développer effectivement de la végétalisation qui soit intelligente, qui soit cohérente et en rapport avec le type de lieu, de localisation. Effectivement, on ne va pas faire la même chose à Paris ou à Montpellier ou à Nice. Donc, il va falloir aussi réfléchir.
Mais on peut faire aussi des choses à Paris, par exemple. Dans nos grandes villes, on peut faire des choses.
Bien sûr, on peut faire des choses. Et on peut travailler sur effectivement, déjà, la perméabilité des sols. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'innovations qui arrivent et qui permettent de trouver des solutions. Et puis, je vous dis, face à des villes qui, demain, c'est un autre problème, mais c'est celui qui nous attend juste après, qui auront sans doute des 50 degrés à gérer, il va falloir aussi revoir notre question à l'albédo et donc à cet impact en fait global partout, parce que derrière c'est notre santé et c'est l'humanité qui est en danger.
Bruno Parmentier.
Alors, tu sais, il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent ». C'est dur à entendre, hein. Mais attendez, l'arbre, c'est absolument fondamental. Les deux systèmes de production de matière végétale qui sont les plus efficaces au monde, ils n'ont jamais vu de labour, ils n'ont jamais vu de pesticides. Hein, c'est la forêt vierge et la prairie naturelle. C'est toute cette biodiversité qui s'entend entre elles. Alors, depuis 50 ans en France, on a dit aux paysans, l'arbre est l'ennemi de l'agriculteur. C'est une histoire de fou, ça. Je veux dire, c'est vrai que quand on a un petit bosquet, à 1,50 m du bosquet, il y a moins de blé. Et donc, on en déduit... il faut arrêter tous les arbres. On a subventionné les agriculteurs pendant 40 ans pour retirer les haies, parce qu'il fallait que le tracteur s'exprime. Bon, mais finalement, on s'aperçoit que c'est de la folie. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'humidité, on ne va plus chercher les éléments nutritifs assez profonds, et puis il n'y a plus de régulation du climat, etc. Et en plus, l'arbre, il refroidit au sens strict la planète. il reprend le carbone qu'on a émis comme des cinglés dans l'atmosphère pour le fixer de nouveau. Mais on est en train d'abattre toutes les forêts du monde. C'est quand même fou. Alors, pas en France. En France, on regagne un peu, hein, parce que bon.
On regagne pas mal, mais depuis longtemps.
Mais enfin, dans le, au global, pour situer, on abat en forêt tropicale à peu près la moitié de la superficie de la Grèce, hein, tous les ans. Bientôt, il n'y aura plus de forêt tropicale. Alors, tiens, combien il y a d'arbres sur Terre? C'est intéressant de le savoir. Il y a 3000 milliards d'arbres. Combien il faudrait pour réguler la température? 1000 milliards de plus. Alors, quand on dit il faut planter 1000 milliards d'arbres,
ça les paraît pas impossible. Ça paraît pas impossible. Il y en a déjà 3000 milliards.
Et quand on dit finalement faut augmenter d'un tiers le nombre d'arbres, bah oui. Alors, évidemment, bah, il va falloir mettre des arbres à Paris sur la place de l'hôtel de ville,
c'est
apparemment.
C'est ce qu'a prévu Anne Hidalgo.
Mais il faut remettre des haies. Il n'y a plus un seul arbre entre Paris et Reims. Bah, il faut remettre des haies partout. Et donc, c'est pas seulement des forêts. Il faut remettre aussi des arbres partout qui refroidissent la planète et qui empêchent l'eau de ruisseler quand il y a des orages. Et bon, finalement, on récolte beaucoup plus durablement quand il y a des arbres que quand il n'y en a pas.
Et tant pis pour les places de parking. Emma Aziza.
J'aime beaucoup une phrase qui dit que l'aléa n'est finalement que l'expression de la vulnérabilité d'un territoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un danger qui arrive, on va voir s'exprimer justement tous nos modes de vie, toutes nos 50 dernières années d'évolution de notre territoire. Et c'est là qu'on va voir aussi nos problèmes qui sont liés à l'érosion des sols, nos problèmes de glissement de terrain, parce qu'à la moindre pluie qui arrive, finalement ces sols ne tiennent plus. Ces sols qui sont totalement dénutris, qui sont totalement pollués, sont complètement emportés et aggravent les phénomènes. Et donc on voit bien que quand on est dans une variabilité qui va de la sécheresse extrême justement, qui va accroître ce que l'on appelle ce phénomène de battance et l'impossibilité à l'eau de pouvoir réussir à pénétrer dans les sols, et à la fois quand on voit finalement ces extrêmes climatiques, comme par exemple avec ce qui s'est passé sur l'amont du bassin du Var et notamment sur les bassins de sur les vallées de la Vésubie, où on s'attendait et on imaginait que sans changement climatique, on devait avoir à peu près 200 mm d'eau, c'est-à-dire 200 litres d'eau par mètre carré, et qu'on est arrivé à 500 mm d'eau, c'est-à-dire des sommes, des lames d'eau de millions de mètres cubes qui, à un moment donné, là où elles s'abattent, elles détruiront tout sur leur passage, mais d'autant plus si le sol est totalement urbanisé, anthropisé, et si, en parallèle, les zones qui permettraient justement de servir de buvard ont été tellement exploitées qu'à un moment donné, elles ne font qu'aggraver le problème au lieu de le réduire.
Emma Aziza, tout à l'heure, vous avez utilisé l'expression « eau virtuelle », c'est-à-dire c'est cette eau dont on a besoin pour produire un bien, quel qu'il soit, denrées alimentaires ou pas. Tout à l'heure, Bruno Parmentier nous disait il faut à peu près une tonne d'eau pour faire un kilo de céréales. À peu près, ça dépend évidemment desquelles, mais à peu près. Il faut 100 litres d'eau pour produire un t-shirt. On en avait parlé ici même à ce micro dans Culture Monde. Comment ce concept de transfert d'eau qu'il y a derrière, ce concept d'eau virtuelle et les transferts d'eau donc potable qu'il y a derrière, nous aident à comprendre justement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et est-ce que ces eaux virtuelles sont d'ores et déjà utilisées par les États pour répondre à la pénurie dont on doit faire face dans le domaine de l'agriculture en particulier, Emma Aziza?
Alors pas encore, très clairement, c'est une notion qui a été développée surtout dans le monde de la recherche il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, très clairement, c'est un moyen qui nous permet d'évaluer. Et on voit bien qu'avec l'histoire du bilan carbone, on a besoin à un moment donné d'évaluer notre empreinte carbone. Et ce qui dit empreinte carbone et empreinte énergétique dit empreinte eau derrière. Parce que pour avoir de l'énergie, il faut avoir de l'eau. C'est-à-dire que c'est directement lié. Vous avez des centrales de refroidissement, des circuits de refroidissement des centrales thermiques qui sont directement liés à cette eau que l'on consomme. Les usines hydroélectriques sont complètement fonction des débits qu'on a dans nos rivières. Et on l'a vu d'ailleurs sur ces dernières années qu'il y a eu un véritable problème, voire des centrales à l'arrêt, par des problématiques de température d'eau ou bien de débit.
Mais est-ce que les États en ont conscience de tout ça? Est-ce que, par exemple, quand la Chine, par exemple, délocalise un certain nombre de secteurs, et je pense en particulier au secteur textile, je parlais tout à l'heure des t-shirts, il y a beaucoup une grosse partie du secteur textile qui a été externalisée au Bangladesh, au Laos, etc., etc. La Chine ne produit quasiment plus de vêtements, beaucoup moins en tout cas. Est-ce que c'est volontaire, c'est intentionnel, c'est précisément pour économiser son eau?
C'est volontaire, mais c'est surtout pour peut-être déplacer le problème ailleurs. C'est-à-dire que c'est nos t-shirts en coton qui ont permis l'assèchement de la mer d'Aral au fur et à mesure de ces années. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette surexploitation et ces géants de l'utilisation du coton vont avoir un impact directement local sur les populations. Et dans un effet de mondialisation, effectivement, on n'en parle plus.
Bruno Parmentier, sur cette question de l'empreinte eau.
Oui. Alors,
de l'eau virtuelle.
Deux exemples concrets pour faire comprendre. Il y a beaucoup plus d'eau dans une tasse de café que dans une tasse de thé, contrairement aux apparences sur sa table. Parce qu'en fait, pour avoir une tasse de café, on a dû faire pousser un caféier, qui est un arbre qui a besoin de beaucoup d'eau, et on ne prend que la graine. Évidemment, le caféier fait assez peu de graines. Donc, dans chaque graine de café, il y a beaucoup. Alors que... pour faire du thé, on a fait pousser des camélias, on a pris des feuilles. Le camélia fait beaucoup plus de feuilles que le caféier ne fait de graines. Donc il y a beaucoup plus d'eau virtuelle dans une tasse de café que dans une tasse de thé. Bon, alors maintenant, par exemple, regardons l'Égypte. L'Égypte, c'est un immense désert traversé par une rivière. Il y a plus de 100 millions d'habitants. Ils sont totalement incapables de se nourrir. L'Égypte importe massivement du blé. C'est le plus grand importateur mondial de blé. L'eau qui a servi à produire le blé... qu'achète l'Égypte, c'est l'équivalent du débit de la Seine. Donc en fait, quand l'Égypte achète son blé, c'est comme si elle achetait l'eau d'un fleuve comme la Seine. Et donc, par exemple, en France, eh ben, on importe énormément d'eau du Brésil. On importe l'eau du Brésil qui a servi à faire du soja et du maïs. On importe toute l'eau qui a servi à faire du coton. Mais on vend l'eau qui a servi à faire du blé ou qui a servi à faire du vin. Donc en France, on est à peu près équilibré. Mais évidemment, il y a des pays qui sont très exportateurs indirectement d'eau virtuelle et des pays qui sont très importateurs.
J'ai lu hier en préparant l'émission que au niveau de l'Europe, 40% de son empreinte eau est externalisée à l'Europe. Donc on n'est pas tout à fait équilibré. S'agissant de l'Europe, hein, j'entends.
Oui. Mais enfin, nous, on est des gros exportateurs de produits agricoles,
la France,
c'est pour ça.
Hein.
Ouais. On est aussi des gros importateurs, et puis en parallèle de ça, on a vraiment réglé le problème, nous, des déficits en eau et de la sécheresse, par le fait de combler avec une prise en charge étatique, ce qui est loin d'être le cas au niveau mondial. Donc en fait, on a ce vrai problème de l'alimentation. Je donne un autre exemple aussi qui est assez marquant. En Chine, en 98, on a eu une grande crise avec un déficit de mousson extrêmement marqué. Et effectivement, en achetant massivement des céréales sur le marché international, ça a permis de combler la problématique en local sans avoir de famine, sans avoir de crise majeure. Et donc on voit bien qu'on est face à quelque chose qui se règle par l'internationalisation. Maintenant, je voudrais juste revenir rapidement sur la France. Aujourd'hui, on voit une évolution en France qui est très marquée et que l'on maîtrise mal. C'est cette question de ce cycle de l'eau. On a toujours l'impression dans nos cahiers d'école qu'en fin de compte, le cycle de l'eau, il part au niveau de l'océan avec ces rivières qui arrivent et qui débouchent au niveau de leur exutoire avec cette évaporation, transpiration, et puis à nouveau ce nuage qui se reforme.
Ah, c'est le souvenir que j'en ai, moi.
C'est ça. La réalité, c'est qu'il y a un autre type de cycle de l'eau, c'est le cycle de l'eau continentale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des eaux qui vont précipiter sur les continents, celles-ci vont permettre la formation de nouvelles pluies, et c'est ce qui permet notamment...
Sans passer par la mer.
Sans passer par la mer, ce qui permet de faire en sorte que la façade atlantique permet d'avoir des pluies en Moselle et dans l'est de la France, parce que justement, il y a ces boucles de rétroaction. Le problème, c'est que ce nombre d'anticyclones qui se mettent en place successivement et qui font nos sécheresses et canicules d'été, le problème c'est qu'ils viennent complètement revoir ce schéma et faire en sorte que, justement, on n'a plus cette capacité de réitérer l'eau sur place. Et c'est ce qui fait la différence entre un géant du Brésil qui est le géant de l'eau et la Namibie qui est un désert, c'est le sens des vents et c'est justement cet effet de continentalité. C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on aille demain.
Voilà, donc on a tous un peu besoin de retourner à l'école. Vous parliez tout à l'heure de régime alimentaire, on va en parler tout de suite.
Ici, on est dans une parcelle de multiplication de semences de mil, donc de la variété que nous appelons Tchalak 2, qui est très demandée, cultivée dans presque tout le pays. C'est une variété qui a, comme vous pouvez le voir, des épis longs, qui a un très bon rendement, le goût est bon. La graine est assez grosse pour servir dans la transformation et qui, en plus, a vraiment ce qu'on appelle le stay green. Donc, à maturité encore, il garde les feuilles vertes. Cette variété permet d'avoir de la production pour nourrir les hommes, mais aussi de la paille pour nourrir les animaux. Adapté au changement climatique aussi, parce que ce que nous cherchons principalement, c'est essayer d'avoir une variété qui arrive à maturité avant que le cycle hivernal ne se termine.
Voilà, on entendait à l'instant Ousmane Sy du Centre National de Recherche Agronomique de Bambé au Sénégal qui a consacré sa vie à une céréale, le mil. Bruno Parmentier, on le disait tout à l'heure, Emma Aziza le disait, c'est vrai que nous autres occidentaux, notre régime alimentaire consomme énormément d'eau. Hein, quand on mange de la viande, des fruits, des légumes, etc. etc. Bon, c'est très bien pour la santé, mais ça consomme énormément d'eau. Comment il va falloir faire demain pour qu'on s'en sorte une fois encore? Est-ce qu'il va falloir tous se mettre au mil parce qu'il a besoin de moins d'eau et qu'il a peut-être... Il est peut-être plus résistant à la pénurie. Le sorgho aussi, qu'on voit même apparaître maintenant dans nos champs ici en France parce qu'on s'est rendu compte qu'il résistait très très bien à la chaleur. C'est ça notre régime alimentaire de demain?
Bah oui, peut-être que quand l'auditeur prendra son œuf coq demain au petit déjeuner, il va dire « il y a 200 litres d'eau dans l'œuf coq ». Voilà. Bon, donc, parce que il a fallu produire... du blé, du soja, etc. Et la poule fait des œufs de temps en temps.
Alors, voilà. Décrivez-nous bon, ce qu'on aura, nous, qu'est-ce qu'on va manger.
C'est évident. C'est évident qu'on mange trop de viande et trop de lait, trop de produits animaux. Alors, on a énormément augmenté hein, dans les années 30. C'était 30 kilos, dans les années 50, 50 kilos, dans les années 80, 80 kilos. Et au tournant du siècle, les Français ont mangé 100 kilos de viande et 100 kilos de lait.
On dit que c'est un peu en train de baisser.
Alors, c'est vrai, maintenant ça baisse. Le maximum de la courbe, c'était en l'an 2000. D'où la crise de l'élevage. On est passé à peu près à 85 kilos seulement de viande, on faisait beaucoup, et 90 kilos de lait.
Mais vous parlez ici en France.
En France. Voilà. Pendant le Covid, cette pente, elle a fait de nouveau une marche. Donc on doit être plus qu'à 80, etc. Donc
mais au global, dans le monde.
Dans le monde, en revanche, on augmente, parce que les classes moyennes du monde, je vois pas au nom de quoi on leur refuserait aux Africains de manger la poule au pot le dimanche. Donc il y a des milliards de gens... qui ne mangeaient jamais de viande et jamais de lait, qui s'y mettent. Heureusement, souvent, c'est soit l'un, soit l'autre. En Chine, c'est viande et pas de lait. En Inde, c'est lait et pas de viande. Mais si tout le monde mange comme un Français, pour situer un Français dans sa vie, il mange 7 bœufs, 33 cochons, 1200 poulets, 20 000 œufs, 32 000 litres de lait. Mais attendez, quand on sera 10 milliards, si on veut que tout le monde mange 7 bœufs, il faut élever 70 milliards de bœufs, 330 milliards de cochons. Donc, ce sera impossible.
Qu'est-ce qu'on devra manger, justement, quand on sera 10 milliards, pour ne pas être en situation de pénurie?
Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'on va revenir à des consommations plus normales. En France, par exemple, une cinquantaine de kilos de viande, une cinquantaine de kilos de lait. Bon, ça laisse quand même, hein. Et en Chine, par exemple, la population a doublé depuis Mao Zedong. Elle est passée de 700 millions à 1,4 milliard. Et elle a quadruplé sa consommation de viande, elle est passée de 15 kilos à 60 kilos. Donc la Chine a multiplié par 8 sa consommation de viande, mais c'est une ponction gigantesque sur les ressources de la planète. Donc on ne peut pas offrir la diététique des Français à l'ensemble de l'humanité.
Emma Aziza.
Se pose la question des solutions effectivement qu'on va devoir mettre en place. On en a déjà beaucoup qui ont été mises en place, notamment la récupération des eaux de pluie. Maintenant peut-être qu'il va falloir la généraliser à l'échelle individuelle. Attention par contre, ceci dit, avec les récupérateurs, les gouttières, etc. Par contre, attention à la qualité de l'eau, parce que d'ailleurs, ça a été une des problématiques qui a été évoquée, le fait de créer des bassines hors sol pour les agriculteurs situés en amont pose la problème aussi du traitement de ces bassines hors sol avec un fond en PVC. Donc, c'est en fait, à chaque solution, il y a un problème qui se crée. On a des barrages, ouais. On a derrière, vous voyez, la réutilisation des eaux usées.
Justement, je voulais vous en parler, ça, parce que ça, voilà, une source a priori formidable pour.
Oui, c'est une des solutions.
Les eaux usées de nos villes.
Qui est de plus en plus utilisé, par exemple, pour l'arrosage et le nettoyage des villes.
Vous dites attention.
En fait, chaque chose a son lot derrière de constats. Maintenant, effectivement, il vaut mieux utiliser de l'eau, de la réuse, en fait, de l'eau usée qui a été juste légèrement retraitée, qui n'a pas eu un coût de retraitement important pour nettoyer nos trottoirs, plutôt que d'utiliser celle qui va dans notre robinet, qui a un coût extrêmement élevé pour avoir justement des normes de potabilité qui soient extrêmement importantes. Donc, il y a ça, il y a la question du dessalement de l'eau de mer. C'est une vraie question. Il y a l'innovation qui est en train d'arriver aujourd'hui, et on voit très bien que l'île de Malte aujourd'hui, par exemple, ne pourrait pas survivre si elle n'avait pas cette question de dessalement. Donc c'est quelque chose qui va devoir évoluer. Et puis se pose une question, je vous donne un exemple, l'usine de dessalement, c'est intéressant et puis c'est magnifique, on se dit c'est génial, on a tout l'océan finalement, on va être capable d'avoir de l'eau pour le monde entier. Le problème c'est qu'on met une salinité beaucoup plus importante localement dans les océans qui vont avoir un impact sur les espèces. Donc en fait on peut trouver des solutions, mais il faut que ces solutions elles soient cohérentes et qu'on n'oublie pas que le premier utilisateur de l'eau, c'est le milieu naturel.
Et oui, parce que tout à l'heure, Bruno Parmentier nous disait qu'il y a 96% de l'eau dans les mers, donc il n'y a qu'à se servir.
L'eau de mer est injectée sous haute pression. Elle traverse des membranes très fines, des filtres qui ne laissent passer que des molécules d'eau. C'est comme ça qu'on obtient de l'eau potable, sans sel.
Cette usine peut produire jusqu'à 200 millions de litres par jour. Cela permet d'approvisionner 20% de la population de Barcelone et de sa région.
Voilà, donc une usine de dessalement du côté de Barcelone, Bruno Parmentier, mais il y en a bien d'autres. Il y a eu un rapport des Nations Unies en 2017 qui nous disait qu'il y a plus de 15 000 usines, quasiment 16 000 usines de dessalement réparties dans 177 pays. Et bon, bah, la voilà la solution, Bruno Parmentier, elle est toute trouvée. On n'a plus de pénurie d'eau.
Et non.
Ah.
Je veux dire, non mais c'est parfait pour boire. Enfin, attendez, il faut une tonne d'eau pour faire un kilo de blé. Si vous donnez une tonne d'eau dessalée de la mer, le kilo de blé, il est hors de prix. Est-ce que pour retirer le sel de l'eau de mer, il faut une quantité d'énergie absolument considérable?
On n'a qu'à utiliser le solaire.
Ah oui, mais bon, alors, on pourrait imaginer, dans une espèce de science-fiction, des kilomètres carrés de panneaux solaires dans le Sahara, qui dessalent de l'eau de mer, et on ramène l'eau. Bon, c'est quand même un peu science-fiction.
Pourquoi?
Parce que il va falloir la transporter, etc. Mais enfin, c'est plus faisable que de dire on va produire de l'électricité qu'on va faire traverser la Méditerranée, parce qu'il y a énormément de pertes en ligne. Et donc, il est peu probable qu'on utilise de l'électricité en France, produite à Tamarin-7 par des panneaux solaires gigantesques. Et comme on ne sait pas bien stocker l'énergie, ça va être compliqué. Mais en toute théorie, c'est vraiment science-fiction, on pourrait imaginer de produire de l'eau douce à partir d'énergie solaire dans les endroits où il y a beaucoup de soleil, mais avant de produire du blé et du maïs à prix raisonnable avec de l'eau de mer auquel on a retiré le sel, je pense que je serais mort depuis très longtemps.
Bon alors Emma Aziza, autre solution, il suffit de faire pleuvoir, maîtriser l'eau. On sait faire. La première fois qu'on a fait de l'ensemencement des nuages, c'était en 1946, du côté de New York.
J'allais vous en parler, effectivement.
Bon, donc on sait faire, on n'a qu'à faire ça.
L'homme, effectivement, a toujours été un apprenti sorcier. D'ailleurs, il ne faut pas croire que c'est une vision de science-fiction, le fait de provoquer des pluies à partir d'iodure d'argent. Ça se fait énormément en Chine. En 1977, on avait même imaginé importer des icebergs, justement, jusqu'aux Émirats arabes. Donc, en fait, on voit très bien qu'on a des solutions. On est même en train actuellement, dans certaines parties du monde, de prendre des eaux usées et de réintroduire ces eaux usées dans les nappes profondes pour pouvoir s'en débarrasser. Parce qu'on ne sait plus comment les traiter parce qu'elles sont trop polluées. Donc ça devient des poubelles à polluants et à métaux lourds colossales. Donc effectivement, moi je vous dis, le vrai problème et la vraie gestion qu'il va falloir faire, ce n'est pas un problème de solution. Les solutions, on en a. Par exemple, la question du dessalement, c'est une solution. Le problème, c'est derrière le coût énergétique que ça coûte pour dessaler. Donc à chaque fois, ça pose un problème derrière. Est-ce que l'éolien demain va arriver ou le solaire va trouver des solutions? Je suis certaine que effectivement l'innovation, l'ingénierie, la créativité sera au service de cette humanité, à condition qu'on y mette de la cohérence. Parce qu'on peut faire de tout. On peut faire en sorte que demain, il n'y ait plus de sécheresse en France et qu'effectivement, on balance comme ça du iodure d'argent et qu'on fasse pleuvoir dans des moments. Mais quelles conséquences? C'est-à-dire qu'il faut toujours, comme aux échecs, avoir deux coups d'avance et essayer de réfléchir sur un territoire, non pas tout de suite là comme ça, mais qu'est-ce qui se passera après? Ça a été le problème des bassines d'ailleurs. Il y a eu de grands débats qui ont été menés. Il y a eu des exemples qui ont été réalisés, notamment de recherches sur les bassines situées en Tunisie. Le problème, c'est qu'on a construit des bassines et des réservoirs partout et on s'est dit que finalement, ça allait permettre aux agriculteurs de comprendre qu'il y avait moins d'eau. Le problème, c'est que tant qu'il y a de l'eau, on l'utilise. Donc en fait, comment est-ce qu'on crée cette cohérence? Comment est-ce qu'on forme les gens à comprendre que c'est pour eux qu'on travaille et que derrière, finalement, si eux émettent quelque chose, c'est sur eux que ça retombera. Et alors, tant que jusque-là, on n'avait pas de problème parce qu'on importait notre eau et qu'on allait assécher la mer d'Aral en s'habillant, on pouvait changer avec les grandes enseignes vestimentaires de vêtements toutes les semaines parce que finalement, ça ne nous pose pas de problème. Ça commence à nous poser problème à partir du moment où nous, notre eau du robinet et qu'il n'y a plus d'eau. Et donc, c'est redonner finalement cette question de la responsabilité autonome pour pouvoir justement créer cette autonomie. Il va falloir mettre de la cohérence. Et je pense que c'est notre grand défi de demain dans les politiques à mettre en œuvre.
On est avec vous, Emma Aziza, et vous, Bruno Parmentier, dans cette série consacrée aux nouvelles batailles de l'eau. On va prendre la direction de l'Espagne, où l'agriculture intensive sous serre a beaucoup fait pour le développement économique et social des territoires, mais elle a également contribué à la pollution des sols et à la désertification accélérée des territoires. On va en parler tout de suite.
Regardez ces oranges.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Regardez ces oranges. Dans quel état elles sont? Encore sur l'arbre, mais déjà sèches. Ça, c'est à cause du manque d'eau. Et celle-là, elle s'ouvre. C'est aussi parce qu'elle n'a pas assez d'eau. Ça, ce sont des mandariniers. Comme vous le voyez, ils sont secs. On les a abandonnés il y a 2 ans. Tout ce qu'on a pour cultiver, c'est de l'eau de mer désalinisée. Mais d'une part, elle ne convient pas pour faire pousser des agrumes, et d'autre part, elle est très chère.
Voilà, on est là dans le sud-est de l'Espagne, en Murcie, où les cultures d'agrumes dépendent largement du Tage, mais où ces dernières années, eh bien, c'est de plus en plus compliqué de les cultiver. On va retrouver depuis l'Espagne, depuis la région de Murcie, justement, Dario Salinas Palacios. Bonjour.
Oui, bonjour Florian.
Merci beaucoup.
Merci de l'invitation.
Merci d'avoir accepté, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur associé à l'Université de Murcie. D'abord, peut-être un premier point sur l'ampleur des dégâts, j'allais dire. Aujourd'hui, on en est où de cette désertification en Espagne? Quelle part du territoire est concernée par l'aridité? Et puis, on va voir jusqu'où l'agriculture est responsable de l'accélération intensive de cette désertification en Espagne.
Oui, en effet, historiquement, la désertification en Espagne, les endroits les plus arides, étaient surtout focalisés dans le sud-est de l'Espagne. Mais c'est vrai que depuis 40 ans, on voit que tous les territoires, sauf la façade nord de l'Espagne, donc on parle de 70% du territoire espagnol, est sensible à la désertification et à l'aridité, et c'est notamment par certaines pratiques qui ont été mises en place depuis la fin des années 70, des années 80, qui ont provoqué ce processus que les changements climatiques, en plus, ça favorise.
Mmh. Alors, c'est un peu comme ce qu'on évoquait tout à l'heure avec nos invités. Vous nous le dites, il y a effectivement des régions en Espagne où on ne manque pas d'eau. Il y a une Espagne humide. La Galice, les Asturies, le Pays Basque, tout ça, on ne manque pas tellement d'eau. On a 10% du territoire espagnol où sont concentrés 40% des ressources hydriques. Et puis de l'autre côté, on a cette Espagne sèche qui représente, elle, 90% du territoire, mais avec seulement 60% des réserves. Bah, il suffit de prendre de l'eau là où il y en a beaucoup et de la transférer de l'autre côté. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'en réalité, la politique nationale de transfert des eaux est pas toujours aussi simple, Dario Salinas Palacios.
Oui, en effet, ça c'est un peu les points de problématique actuelle en Espagne. Et cette politique basée sur l'augmentation de ressources en eau, c'est la politique nationale depuis la fin du 19e siècle, quand il fallait développer la nation. Et il a pris son ampleur pendant les franquismes. Pendant 40 ans de franquisme, on a construit beaucoup de barrages, des aménagements hydrauliques pour transférer cette eau censée de régions excédentaires vers des régions déficitaires. Mais cela a provoqué des déséquilibres territoriaux au niveau socio-économique, parce que le principal activité qui se sont développées, c'est l'agriculture d'irrigation, comme à Murcie, ou Almeria, Huelva, dans les littoraux, mais aussi une économie immobilière basée sur le tourisme, ce qui provoque que les 50% de la population espagnole se trouve sur la façade méditerranéenne, tandis qu'à l'intérieur, on trouve une Espagne à faible densité, sauf l'agglomération de Madrid. Et là, en plus, ces territoires de centre réclament plus de aménagements pour le développement de leur agriculture. Donc, on assiste depuis une vingtaine d'années dans les bassins de l'Ebre, du Duero, du Tage, on parle de Castille, du centre. On assiste vraiment à une augmentation des surfaces d'irrigation très, très importante, notamment pour la vigne, l'olivier. C'est des produits que, avec l'irrigation, ils ont plus de rendement d'eau. Mais ça a provoqué que ces d'autres régions censées d'avoir plus d'eau commencent à avoir des moments de stress ou des pénuries.
Oui, et aussi avec des conflits entre secteurs, entre régions. Par exemple, ce qu'on utilise pour l'agriculture, eh bien, ça a des conséquences pour le tourisme. Vous êtes très bien placé pour le savoir, parce que dans la région où vous êtes en ce moment-là, en ce moment, la région de Murcie, où on pratique l'agriculture intensive à grande échelle, il y a une magnifique lagune qu'on appelle la Mar Menor, qui est une très belle lagune d'eau salée, la plus grande d'Europe, qui est entouré de très belles infrastructures aussi, où les touristes peuvent venir se reposer ou faire des sports nautiques. C'est très joli, sauf que depuis quelques années, viennent s'y déverser des engrais, des restes d'engrais, ce qui provoque ce qu'on appelle un phénomène d'eutrophisation, c'est-à-dire une accumulation très forte d'algues, ce qui fait qu'on ne peut plus s'y baigner. Donc c'est un désastre écologique, mais c'est aussi un désastre économique, parce que il y a tout un tourisme, une économie du tourisme qui est derrière et qui est menacée. Mais si je reviens à la question de la politique nationale de transfert des eaux, Dario Salinas Palacios, vous nous expliquez comment dans la période du franquisme, on avait mis comme ça en place des barrages pour justement organiser ce transfert. On imagine qu'avec la raréfaction de l'eau, les choses se compliquent et que les oppositions à ces transferts dans les régions sont de plus en plus fortes. Mais au fond, qui a le pouvoir là-dedans? Est-ce que Madrid peut décider que, compte tenu de la situation, eh bien, il faut réaliser tel ou tel transfert? Ou est-ce qu'en réalité, ce sont les communautés, hein, rappelons que on est en Espagne dans une situation où les 17 communautés ont une autonomie très importante. Quelle est justement cette autonomie en matière d'eau? Est-ce qu'une région peut décider de ne pas effectuer un transfert?
Non, en fait, l'eau est confiée à l'État. C'est l'État est le responsable de la planification et la gestion de l'eau. Et d'après une loi de 1985, seulement les régions qui ont de bassins versants qui se trouvent dans son seul territoire, ce qu'on appelle bassin intracommunautaire, c'est-à-dire qui ne touchent pas d'autres bassins versants, bah, par exemple les îles Baléares, parce qu'elles sont des îles, ou en Galice ou en Catalogne, il y a certains bassins versants qui ne sont pas partagés avec des autres communautés autonomes, là, il peut avoir une agence régionale de l'eau qui fait la gestion sous les principes qui marquent l'État. Mais le problème est marqué une fois qu'on entre en démocratie, comme c'est logique, il y a plus de dissensions et les conflits territoriaux augmentent. Mais c'est à partir des années 90 qu'il y a un point de rupture au niveau idéologique entre, on va dire, la droite et les socialistes, ou la gauche à l'époque. Il y a eu un mouvement d'académiciens, de professionnels très importants qui s'appelle Nouvelle Culture de l'eau, qui va avoir forcément un impact dans la société, dans les mouvements civils, dans les ONG écologistes, qui a provoqué que il y a eu un changement en 2000 ans de la politique hydrique nationale. La droite avait prévu un transfert d'eau entre l'Ebre au nord vers le sud. Et là, en 2004, quand les socialistes sont arrivés, ils ont placé ce transfert d'eau et ils ont mis en place les usines de dessalement. À partir de ce moment-là, l'eau est devenue vraiment une question géopolitique en Espagne, dans le sens que les régions ont été confrontées, celles qui étaient censées de transférer de l'eau vers celles qui étaient censées de recevoir de l'eau, et a coïncidé aussi dans un conflit entre les socialistes et les conservateurs. Et là, cet schéma, ça continue encore en Espagne, bien que avec la crise économique et la pandémie, on l'écoute moins.
Vous restez avec nous, je voudrais faire réagir peut-être nos deux invités, Emma Aziza et Bruno Parmentier, sur ce cas espagnol. Qui va en premier? Bruno Parmentier?
Oui.
Allez, Bruno Parmentier.
Écoutez, bon, les transferts d'eau, c'est très difficile, puisque maintenant l'eau est une ressource rare. Donc ça va être une cause de guerre. Bien. Donc, déjà, c'est très difficile à l'intérieur d'un pays. C'est aussi encore plus difficile entre différents pays.
On a vu ça hier.
Vous l'avez vu, hein. Je veux dire, le Nil, l'Égypte va pas être contente si on fait des barrages en haut, etc.
On en parlait hier, bon. C'était notre sujet hier.
Alors maintenant, il y a au moins deux pays emblématiques où c'est des pays, juste un seul pays, c'est la Chine et les États-Unis. Bon, la Chine, c'est complètement emblématique, il y a deux grands fleuves, hein, le fleuve jaune, le fleuve bleu, grosso modo à Shanghai, les inondations, à Pékin, les sécheresses. Et donc, ça fait déjà des centaines et des centaines d'années qu'ils ont travaillé comme des malades pour faire un canal, pour amener une partie de l'eau du sud vers le nord. Mais la cause ultime du barrage des Trois Gorges, qui est le plus grand barrage du monde, c'est de continuer à envoyer de l'eau comme ça vers le nord. Alors, c'est plus facile en Chine, il y a un pouvoir autoritaire, c'est un seul, et puis il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de région, etc. Donc ça va se faire. Aux États-Unis, ils n'ont pas encore compris qu'il fallait le faire. Trump, il adore faire du béton. Lui, son obsession, c'est de faire le mur. Mais c'est pas du tout ça qui est important pour les États-Unis. C'est de faire le canal. Il faut faire un canal pour mettre de l'eau de Chicago jusqu'à Dallas. Parce qu'à Dallas, il n'y aura vraiment plus jamais d'eau. Alors qu'à Chicago, il y en aura toujours beaucoup. Donc, c'est des travaux gigantesques qui se heurtent à des intérêts absolument gigantesques. Et on le voit même au micro local en France. Je veux dire... Dès que les agriculteurs veulent faire un petit barrage, c'est immédiatement les émeutes, etc. Ouais. Donc, ça va être des conflits locaux, régionaux et internationaux considérables.
On le voit, Emma Ziza, c'est des problèmes de gouvernance.
Oui, et puis je voudrais revenir sur la question de la désolation, justement, de ce reportage qu'on avait sur ces terres en Espagne, et revenir sur cette question de l'utilisation massive après-guerre, justement, du fait qu'on a nourri nos sols avec des nitrates qui coûtent de plus en plus cher parce qu'ils suivent le cours du pétrole, avec des réserves de phosphate qui tendent à s'atténuer complètement et à s'épuiser au cours du 20e siècle, du 21e siècle, on n'en aura plus. Et on a comme ça, comme des nouvelles terres qui ont été abreuvées de matières qui aujourd'hui deviennent totalement pauvres. Et dès que vous retirez justement ces apports de nitrates, ben vous avez des sols sur lesquels il n'y a plus de fertilité en fait. Donc en fait, on ne peut plus rien faire pousser. Donc comment est-ce qu'on recrée justement, et comment on rend plus fertiles les sols? Ben je trouve que c'est l'enjeu de demain. Et ça fait appel à la question de la gouvernance, parce que c'est les politiques qui, demain, pourront influencer cette question-là. Parce que vous le dites, la question des nitrates et des phosphates, ben c'est aussi la question de l'eutrophisation de nos eaux. On a vu cet été le lac d'Anguin, qui d'un seul coup retrouvait des millions de mètres de poissons morts, comme ça, d'un coup. Et donc, c'est vraiment ce problème de quantité et de qualité. Et tout ça, ça se gère en amont, par justement des interdictions, et par justement le fait que aujourd'hui, tous ces nitrates et tous ces phosphates, ils arrivent aussi dans justement les captages d'eau potable, et ça coûte très très cher pour avoir de l'eau potable aujourd'hui en France, pour qu'elle arrive dans nos robinets. Donc est-ce qu'on pourrait pas travailler autrement et faire en sorte que ce soit moins cher aujourd'hui de pouvoir traiter nos eaux de potabilisation, et justement en enlevant juste à la source la pollution qui est originelle?
Merci infiniment à toutes et tous, Dario Salinas Palacios, d'avoir été avec nous en direct depuis l'Espagne. Un grand merci à vous, Emma Ziza, de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes notamment fondatrice de Mayan, qui est un centre de recherche appliqué sur l'adaptation face au changement climatique, qui est d'ailleurs présent en France, mais pas seulement, qui commence un peu à s'externaliser. Merci également à Bruno Parmentier d'avoir été avec nous ce matin. Faut-il rappeler agriculture, alimentation et réchauffement climatique, fin zéro, enfin tout ça, on va mettre sur la page de Culture Monde, sur le site de France Culture. Merci beaucoup à tous. Dans un court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table. Mais d'abord, c'est Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Ce qui me frappe toujours dans cette période de marche à la guerre de 14, écrit Hélène Miard de la Croix dans ce livre, qui vous sert de fil conducteur cette semaine, Brice, ennemi héréditaire, c'est l'antagonisme culturel des deux pays. Il s'est cristallisé dans la controverse culture contre civilisation. Vous pouvez développer ?
Oui, cette même historienne évoque quelques pages plus loin le sentiment de supériorité que ressentaient les savants et les intellectuels allemands quand ils évoquaient en effet leur propre culture, ressentie comme profonde et authentique, par opposition à la civilisation française réputée superficielle et hypocrite. Ce lieu commun de la culture allemande de l'époque a été développé tout particulièrement par le grand Thomas Mann lui-même, dans un livre publié durant la guerre de 14-18 et intitulé « Considération d'un apolitique ». Il l'écrit, Thomas Mann, pour justifier son refus de se joindre à son frère Heinrich Mann, qui s'était désolidarisé de l'Allemagne en guerre et avait proclamé son propre pacifisme internationaliste. Alors là, je vais citer un peu longuement, si vous me le permettez, un livre essentiel pour comprendre les relations intellectuelles franco-allemandes, celui de l'anthropologue Louis Dumont, qui était intitulé « L'idéologie allemande, France, Allemagne et retour » et qui a été publié en 1991. Thomas Mann ne nomme jamais son frère, écrivait Louis Dumont, mais même s'il le cite quelquefois, il part en guerre contre ce qu'il appelle le littérateur de la civilisation, expression qui peut s'appliquer aussi bien à Romain Rolland qu'à Heinrich. Le littérateur de la civilisation est universaliste et pacifiste, avocat de la démocratie, c'est-à-dire de la politique elle-même. La civilisation, chose des Occidentaux, s'oppose à la Kultur qui caractérise l'Allemagne. C'est un thème rebattu, devenu général à l'époque, comme le slogan majeur par lequel l'Allemagne répond à la propagande de guerre ennemie. À ce plan, la civilisation est essentiellement le progrès matériel, par définition commun à tous et donc international, tandis que l'Allemagne est le dépositaire des valeurs spirituelles de la Kultur qui lui serait particulière. On voit bien, écrit plus loin Louis Dumont, que ce qui est visé ici sous le nom de civilisation, c'est ce que nous avons appelé l'individualisme de la Révolution française. Un individualisme appliqué aux institutions sociales et qui se trouve en même temps être porteur de progrès matériel et donc suspect de matérialisme. Par opposition à l'individualisme intérieur, spirituel, nuancé au moins de religion qui laisse intact le holisme ambiant et participe de l'organique. En effet, l'Allemagne est une communauté et les valeurs occidentales qui ne connaissent que l'individu et l'espèce sont destructrices de l'identité allemande. Fin de citation.
Mais Brice, ce thème de l'individualisme français versus le holisme allemand a un petit peu disparu de nos débats.
Oui, c'est une bonne chose et peut-être parce que l'Allemagne s'est normalisée depuis qu'elle est devenue cette démocratie modèle que l'Europe admire à la fois pour ses performances économiques et pour le fonctionnement régulier de ses institutions. Le fameux Sonderweg, le chemin particulier qu'une partie de ses élites revendiquait, n'est vraiment plus de saison aujourd'hui. Et surtout parce que nous avons cessé, nous Français, de nous regarder mutuellement comme l'autre vis-à-vis duquel nous nous identifions dans le passé. Les auteurs de « Ennemis héréditaires » point d'interrogation font à nouveau référence au rôle de lieu de mémoire joué par le château de Versailles à la fin de leur livre entretien. Après avoir accueilli la proclamation de la naissance de l'Empire allemand en 1871 et la conférence de paix en 1919, le château de Louis XIV a servi de garnison aux troupes d'occupation allemandes du 14 juin 1940 au 15 août 1944. Le drapeau à croix gammée a flotté sur la résidence de nos rois. L'histoire de cette occupation a d'ailleurs été racontée dans un livre par Claire Bonnot qui s'appelle « Soleil éclipsé ». Mais en 2003, pour célébrer le 40e anniversaire du traité de l'Élysée, signé par De Gaulle et Adenauer, le même château de Versailles a accueilli le Bundestag au grand complet, l'Assemblée nationale et le Sénat pour une cérémonie fastueuse qui marquait le succès d'une réconciliation réussie. On ne pouvait pas se faire la guerre à chaque génération, écrivent les auteurs. Le passage de la confrontation à la coopération a demandé du courage et de la persévérance de part et d'autre. Souvenez-vous des fameux tandems franco-allemands qui ont joué un rôle tellement décisif. Nous avons encore en mémoire les images, celles de Gaulle et d'Adenauer assistant ensemble à la messe, côte à côte, à la cathédrale de Reims, en juillet 62. Celles de Valéry Giscard d'Estaing et d'Helmut Schmidt, penchés l'un vers l'autre en amis qui se comprennent enfin. Celle surtout, inoubliable, de François Mitterrand et d'Helmut Kohl, se tenant par la main en silence devant l'ossuaire de Douaumont, commémorant ensemble, au nom de nos deux peuples, l'effroyable bataille de Verdun. C'était le 22 septembre 1984. Quant à Angela Merkel, elle en est, elle, à son 4e président de la République française. Une manière de faire observer l'extrême stabilité de la politique allemande.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture et l'application Radio France. On rappelle donc le titre de cet ouvrage qui vous a servi de fil rouge, « Ennemis héréditaires, point d'interrogation chez Fayard ». Et les auteurs, vous nous rappelez Brice ?
Andreas Wersching et
Hélène Mière de la Croix.
Merci.
Merci beaucoup Brice, on vous retrouve demain sur les réseaux sociaux et lundi ici à la radio.